France Culture. Les nuits de France Culture.
Il y eut tout au long du XXe siècle une littérature paysanne et des écrivains paysans. C'était l'époque où la France était encore majoritairement rurale. Émile Guillaumin, Marius Noguès ou Jean Robinet donnèrent alors ces lettres de noblesse à un style qui célébrait ou qui comptait, sans fard, la vie des campagnes. Et puis il y eut l'exode rural, synonyme de transformation dans le meilleur des cas, souvent de désertification pour des régions entières. Ces nouvelles ruralités firent-elles aussi l'objet de quantités de publications, dans une langue et dans des registres naturellement très éloignés de ceux des grandes plumes paysannes d'autrefois. L'émission que voici donne précisément un aperçu de ces transformations telles qu'elles apparaissaient au mi-temps des années 1970. En fil rouge, la voix d'un écrivain paysan des temps modernes, attaché à la description des réalités rurales contemporaines, qui fut également un élu local, maire de son village de Plaisance-du-Gers, Jean-Louis Quéreillac. Deux écrivaines lui donnent brièvement la réplique, Françoise Lefebvre et Nella Bielski. Être au monde, c'est le titre de ce numéro de l'émission De la nuit par Gilbert Maurice Duprez. Première diffusion sur France Culture le 19 septembre 1975.
Bonsoir.
En compagnie de Françoise Lefebvre, Nella Bielski et Jean-Louis Quéreillac.
D'autant plus cruel que, autrefois, des gens qui traditionnellement avaient aussi le pont affectif avec eux n'ont plus.
Ma femme a la chevelure de feu de bois, aux pensées d'éclairs de chaleur. À la taille de sablier, ma femme à la taille de loutre entre les dents du tigre, ma femme à la bouche de cocarde et de bouquets d'étoiles de dernière grandeur, aux dents d'empreintes de souris blanches sur la terre blanche,
à la langue d'ombre de verre froid. Enfin, c'est subjectif pour moi, je ne vais pas vous l'analyser, hein, bon, c'est un ensemble de personnes qui vivent, bon, définition sociologique. Par excellence, je pense que ce qui me parle, moi, c'est que la collectivité, pour moi, c'est d'abord une liaison d'affectivité. Et c'est ce qui la rend supportable, d'ailleurs. Parce que tous les problèmes que pose une collectivité, sa vie, son demeurant, son avenir, etc., ce sont des choses très difficiles, non seulement à analyser, mais souvent à résoudre. Alors je pense que d'abord, il faut regarder quels sont les liens qui unissent les gens à une collectivité. Est-ce qu'ils d'abord ils sont membres peut-être de la collectivité? Est-ce que... tiré par un pied, tiré par une main, d'un côté, de l'autre, au téléphone, c'est sans arrêt comme ça. Alors pour avoir un moment pour écrire, c'est pas toujours commode. Moi je pense qu'à l'heure actuelle, là, ce qui me... ma passion, enfin, ma plume au service, elle ne peut être qu'au service d'une cause qui est cette vie agricole. On peut pas s'en détacher. Ça serait trahir que de dire qu'à l'heure actuelle, être témoin de tout ce qu'on est témoin, et face à tant d'ignorance, c'est-à-dire à tant de choses qu'on ne juge pas, mais c'est si facile à l'heure actuelle, vous avez... Tout le monde est plein de ces formules, la terre généreuse, la terre qui nourrit ses enfants, la terre où il fait bon vivre, la Gascogne remplie de soleil, etc., tout ça... Mais c'est faux tout ça, ou si ça existe, mais ce n'est pas la seule raison de vivre, que les autres ne les passent. Là, je le comprends fort bien, que ceux qui mettent la musette sur le dos à 5h du matin, qui prennent le métro, qui ont 2h de métro, qui arrivent à l'usine, qui mangent à la cantine, qui le soir repartent. Je comprends, ils n'ont pas le soleil, ils n'ont pas la pluie, ils n'ont pas la chasse, ils n'ont pas un vol d'oiseau, ils n'ont tout ça, bon d'accord, ils ne l'ont pas. Mais de là à dire que dans la vie que nous menons, parce que nous avons ça, nous avons tout. Elle est pleine de respect, la collectivité communale, pour ceux qui en général s'occupent d'elle. On a l'air de croire toujours à une certaine ingratitude de la part des gens. On dit qu'elle se multiplie, etc. C'est faux. C'est absolument faux. On a des centaines d'exemples journaliers qui vous viennent souvent justement de ceux qui représentent la meilleure expression communale, c'est-à-dire ceux qui vivent dans la commune et qui obligatoirement n'en vivent pas, c'est-à-dire ceux qui ont les situations les plus modestes. Et on a des centaines d'exemples de dévouement, de reconnaissance, d'amitié, qui vous permettent justement de penser que vous faites partie de la même collectivité, bien que on vous ait mis à sa tête. Alors je pense que ce lien affectif, pour moi évidemment, il joue doublement puisque je suis originaire de ma commune, j'y suis né, ma famille y a vécu bien avant moi pendant un siècle. Et tout naturellement, le pont s'est fait parce que dans la collectivité, je suis monsieur le maire peut-être, mais je suis surtout Jean-Louis. Voilà, on me dit quelquefois monsieur le maire, mais je suis d'autant plus content que l'on m'appelle par mon prénom, que l'on m'arrête, que l'on m'interpelle.
Ma femme a la chevelure de feu de bois, aux pensées d'éclairs de chaleur, à la taille de sablier, ma femme à la taille de loutre entre les dents du tigre, ma femme à la bouche de cocarde et de bouquets d'étoiles de dernière grandeur, aux dents d'empreintes de souris blanches sur la terre blanche, à la langue d'ambre et de verre frotté, ma femme à la langue d'hostie poignardée, à la langue de poupée qui ouvre et ferme les yeux, à la langue de pierre incroyable, ma femme aux cils de bâton d'écriture d'enfant, aux sourcils de bord de nid d'hirondelle. «
on demande aux gens d'avoir tellement de droits que je pense que cette notion affective renvoie un peu la balle dans l'autre camp. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est un premier point d'humanisme. C'est peut-être trop important comme nom, ce mot d'humanisme. Mais pourtant, soyons plus simples, disons que ça remet les choses dans un cadre familial. Hein? Je pense que ce qui est le plus dur à l'heure actuelle dans le monde où nous vivons, tellement en province, parce que quand même la province reste pensez tellement attachée à ces cadres affectifs dont je parle, c'est que les collectivités elles sont quand même imprégnées. Mais je pense que ce qu'il y a de plus dur dans la vie sociale actuelle, c'est que dans tout ce catalogue, dans tout ce générique de droits et de devoirs respectifs, etc., on oublie que celui qui commande n'est plus au service, alors que normalement il est là pour servir. Et que celui qui est en bas et qui vient chercher autant de réconfort moral et d'affectivité ne trouve en réalité que des réponses à des textes et des choses sèches et froides.
À la langue de pierre incroyable, la femme aux cils de bâton d'écriture d'enfant, aux sourcils de bord de nid d'hirondelle, ma femme aux tempes d'ardoise de toit de serre et de buée aux vitres, ma femme aux épaules de champagne et de fontaine à tête de dauphin sous la glace, ma femme aux poignets d'allumettes, ma femme aux doigts de hasard et d'as de cœur, aux doigts de
moi, je trouve que c'est scandaleux de mourir. Alors, comme on peut rien y faire, si vous voulez, j'essaie. Je ne sais pas, je peux pas m'asseoir et écrire sans que ça revienne sur ma plume. Je n'y peux rien, je ne contrôle pas. Et ça fait un livre sur le temps, ou ça fait un livre où je parle beaucoup de la mort. Peut-être qu'après, à force de l'avoir écrit, je m'en débarrasserai pour 5 ans, 10 ans, j'en sais rien. Then you're
écrire sur les personnages avec lesquels on vit, que l'on côtoie, dont on connaît les drames, dont on pénètre les difficultés, je pense que c'est la meilleure source d'inspiration qu'on puisse trouver. Modestement, parce qu'à mon niveau, je suis incapable d'en trouver un autre, peut-être aussi. Un mot très 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 beau que j'aime beaucoup, auquel on ne croit plus tellement, ou alors qu'on dissimule, qu'on cache. Vous avez dit une vocation. Et je pense qu'à l'heure actuelle, ce qui fait le plus défaut à notre société, c'est ça. Je fais partie d'une génération où tout enfant, où on vous donnait une vocation, ou bien au cours d'études, de lectures, de rêves, etc., vous forgiez une vocation. Oui, je crois que voilà un mot qu'on a vidé de sens également. À l'heure actuelle, vous entendez l'éducation, enfin, j'entends les plus hauts personnages, pour ne pas citer de nom, dans le cadre de l'éducation nationale, qui ont déjà prévu qu'il faudrait tant de personnes de ce côté-là, tant de personnes ici, tant dans le technique, tant dans l'intellectuel, tant dans le monde. Mais on pense quand même que l'individu, si petit soit-il, si humble soit-il, qu'il ait 8 ans, qu'il ait 10 ans, qu'il ait 12 ans, eh bien, il n'ait pas envie de faire quelque chose. Et ce qui me navre le plus à moi, ici, en tant que mère, c'est de voir arriver souvent des parents désarçonnés, désorientés, et qui m'amène un petit qui a la vocation de quelque chose, même par exemple la réparation automobile, mais comme il n'a eu que 12,4 de moyenne annuelle au lieu de 13,5, eh bien, on ne lui permet pas d'aller dans l'automobile, on le met dans la construction mécanique. Vous voyez ? Foyer où on n'est pas rentré pour une joie ou pour une peine. De dire que on voit vivre et passer les générations dans un drame, je crois vraiment que c'est une bonne fresque. Depuis 1945, surtout les années 1950, la Terre a vécu un drame, et vit encore un drame, qui est un drame de révolution, littéralement. Si authentiquement il y a eu une révolution dans le cadre familial, structural, économique, social, et même, je dis à un certain point, révolutionnaire, c'est la Terre qui l'a vécu. C'est pas l'usine. La situation de l'usine en 1936, 45, 50, 68, elle a fait des heurts, elle a évolué, etc. Et tout, mais enfin, ces cadres définitifs de lutte avaient été déjà définis depuis longtemps. Tandis que de 1950 à nos jours, il est certain que non seulement la Terre a vécu une révolution, mais elle a vécu une révolution bousculée. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle s'est trouvée devant un problème, il a fallu le résoudre, et ce problème à peine résolu, il s'en est encore levé d'autres. Et il s'enlève sans cesse. Tout ça dans un mouvement de population, d'abandon, de désespoir, de désespérance. C'est inouï. Il y a à l'heure actuelle, dans le cadre de la Terre, à mon sens, enfin, pour la joie de ceux qui peuvent écrire, il y a une source d'inspiration et de valeur humaine absolument invraisemblable.
Together so slowly, it may take.
femme à la chevelure de feu du bois, aux pensées d'éclairs de chaleur, à la taille de celle-ci, ma femme à la taille de l'outre entre les dents du tigre, ma femme à la bouche de cocarde et de bouquet d'étoiles de dernière grandeur, aux dents d'empreintes de souris blanches sur la terre blanche, à la langue d'ambre de verre frotté, ma femme à la langue d'hostie poignardée, à la langue de poupée qui ouvre et ferme les yeux, à la langue de pierre incroyable, ma femme au signe de bâton d'écriture d'enfant, aux sourcils de bord de l'hirondelle, ma femme au temple d'ardoise de toit de serre et de buée aux vitres, ma femme aux épaules de champagne et de fontaine à tête de dauphin sous la glace, ma femme aux poignets d'allumettes, ma femme aux doigts de hasard et d'as de cœur, aux doigts de foin coupé, ma femme aux aisselles de martre et de faîne, de nuit de la Saint-Jean, de troène et de nid de scalar, aux bras d'écume de mer et d'écluse, et de mélange du blé et du moulin, ma femme aux jambes de fusée, aux mouvements d'horlogerie et de désespoir, ma femme aux mollets de moelle de sureau, ma femme aux pieds d'initiale.
Quand ils viennent ici, ils viennent voir Jean-Louis, et s'ils ne le voient pas à la mairie, ils viennent me voir dans les champs, s'ils ne me voient pas dans les champs, ils viennent me voir le soir pendant le repas, puis ils savent que ma porte est toujours ouverte de jour et de nuit.
Souvenir pour moi, c'est une chose un peu que je n'essaie pas trop bouger, parce que c'est en fait mon matériel d'écrivain, et je les garde, je les pousse un peu comme on pousse un jardin, c'est notre inconnissime de tous les écrivains, parce que c'est vraiment nos outils, c'est vraiment ce dont on fait nos livres. Et d'autant plus que moi, jusqu'ici, ces souvenirs m'ont servi, si vous voulez, d'une manière passive. Ça veut dire que je ne les ai, pas explorés volontairement, parce que jusqu'ici, je n'ai écrit que des livres qui ont été, et c'était un parti pris de ma part, qui était une pure invention.
La vocation de maire, c'est pas une profession, c'est pas un demeurant, c'est pas un devenir. Je crois malheureusement que quand on a eu, je dis pas la malchance, enfin, mais quand on a eu l'occasion d'y entrer une fois, c'est fini. On se fabrique un personnage et une situation qu'on ne quitte plus. En tous les cas, je crois très sincèrement que s'il faut la quitter, puisque la loi démocratique peut-être dans le sens voulu et vous obliger à vous la faire quitter, je pense qu'on en a un très grand désarroi et un profond désappointement, parce que je crois très sincèrement que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les liens affectifs qu'on a créés, qui se sont créés autour de vous, vous rendent la situation et la fonction extrêmement sensible. Elle parle beaucoup plus souvent à votre cœur qu'à votre esprit. En tous les cas, je crois que elle n'a jamais été hors du temps comme à l'heure actuelle.
Si j'agissais maintenant comme un écrivain racontant ces deux histoires, je sais avec la autocensure que j'ai, je ne saurais rien faire. Dans un livre, je ne saurais rien faire de ces deux choses complètement incohérentes et vraiment peu signifiantes. Il m'est arrivé même d'entendre une fois des gens le disent, justement des écrivains, de mes amis à Moscou, qui on a discuté parfois sur justement ce genre de choses. Et ils me disaient qu'en fait, on ne peut pas faire un vrai beau livre avec des souvenirs de sa vie. Jamais écrit autant de témoignages. On peut dire à l'heure actuelle que 80% des livres qui paraissent sont presque tous des livres écrits parce que le moment, la circonstance, on demandait parce qu'on écrive un livre là-dessus. Le plus gros succès de librairie, etc., le prend. Seulement, il n'y a pas de suite dans le temps. N'est-ce pas ? Je pense que c'est une littérature du moment, c'est une littérature de l'instant, presque, vous voyez ?
Quand un livre est fini, c'est un peu comme lorsqu'on vient d'accoucher. On se sent assez malheureux, je veux dire qu'on est... On est déshabité en quelque sorte. C'est terminé. Et c'est maintenant un autre destin qui nous échappe. Parce qu'après tout, quand un livre sort, on ne sait pas ce qu'il en adviendra. Ça, c'est... Je crois qu'à ce moment-là, on n'a plus rien à dire. Pour un enfant, c'est un peu la même chose. On peut lui donner des chances, si vous voulez, simplement peut-être en lui donnant la tendresse, qui me semble très très importante. Et puis après, c'est fini. Je crois que très tôt, il a son destin.
Si les écrivains paysans, authentiquement paysans, sont des écrivains, ils sont quand même à l'heure actuelle, dans le cadre des difficultés économiques qui sont faites à leur situation d'exploitant, il est certain que c'est une littérature prolétarienne et populaire au premier chef. Je pense d'ailleurs que je suis très fier et très heureux de pouvoir me rattacher à cette tradition qui est authentique. Qui est authentique non seulement sur le plan national, mais même dans le cadre régional et gersois. Nous avons eu des écrivains paysans authentiques ici en Languedoc, Nous en avons eu aussi en langue française comme Pesquilou. Finalement, il est certain qu'à ce moment-là, il se mêlait une certaine notion de, si vous voulez, de gentilhomme fermier. Bien certain que M. Pesquilou gardait quand même, sinon, une certaine distance avec tous ceux qui travaillaient sur ces terres, du moins quand même, il participait effectivement. Tandis que nous, à l'heure actuelle, je pense que nous sommes au fort de l'action, c'est-à-dire que nous en connaissons toutes les misères, toutes les difficultés, et que nous les partageons avec tous ceux qui autour de nous travaillent.
Ma femme a la chevelure de feu de bois, aux pensées d'éclairs de chaleur, à la taille de sablier, ma femme a la taille de loutre entre les dents du tigre, ma femme a la bouche de cocarde et de bouquet d'étoiles de dernière grandeur, aux dents d'empreintes de souris blanches sur la terre blanche, à la langue d'ambre et de verre frotté. Ma femme a la langue d'hostie poignardée, à la langue de poupée qui ouvre et ferme les yeux, à la langue de pierre incroyable, ma femme aux cils de bâton d'écriture d'enfant, aux sourcils de bord de nid d'hirondelle, ma femme aux tempes d'ardoise de toit de serre et de buée aux vitres, ma femme aux épaules de champagne et de fontaine à tête de dauphin sous la glace, ma femme aux poignets d'allumettes, ma femme aux doigts de hasard et d'as de cœur, aux doigts de foin coupé, ma femme aux aisselles de martre et de faîne, de nuit de la Saint-Jean, de troène et de nid de scalar, aux bras d'écume de mer et d'écluse, et de mélange du blé et du moulin, ma femme aux jambes de fusée, aux mouvements d'horlogerie et de désespoir, ma femme aux mollets de moelle de sureau, ma femme aux pieds d'initiale, aux pieds de trousseaux de clés, aux pieds de calfats qui boivent, ma femme aux coups d'orge imperlés, ma femme à la gorge de Val d'Or, du rendez-vous dans le lit même du torrent, au sein de nuit, ma femme au sein de taupinière marine, ma femme au sein de creuset du rubis, au sein de spectre de la rose sous la rosée.
On confond, voilà, chez nous, la courtoisie avec la richesse. Alors, parce que nous avons une misère dorée, parce que cette misère, nous avons la pudeur, parce que nous sommes encore des pudiques, les gens de la terre sont des pudiques. Quand ils se fâchent et qu'ils manifestent, c'est que vraiment, il a fallu qu'on leur sorte les tripes, autrement ils ne le feraient pas. Et encore, quand ils le font, ils en sont presque honteux, ils vont presque demander l'autorisation de manifester. Bon, alors voilà, parce qu'il y a cette pudeur, cette courtoisie qui fait que quand on reçoit les gens, on se saigne, on les reçoit gentiment et simplement, bah, c'est une tradition d'amabilité. Alors de tout ça, on forge des trucs, voyons, oh là là, mais qu'est-ce qu'on vit bien, qu'on est bien, cette cheminée, il y a du bois dans le feu pendant l'automne, mais que c'est... Non, alors ça c'est stupide, vous comprenez. Et le malheur, c'est que les 12% que nous restons en France, ou les 14%, dont déjà évidemment le poids compte pratiquement plus. Mais de tout ça encore, non seulement on ne veut pas voir la misère, mais on en fait encore des gens heureux. Alors qu'en réalité, il y a des drames, je côtoie tous les jours des drames, auprès desquels des drames sociaux de ville n'ont rien à voir. N'ont rien à voir. Il faut bien dire que nous avons connu il y a longtemps une éducation nationale qui était attentive, qui avait une oreille attentive aux problèmes de la jeunesse, aux problèmes de l'enfance, aux problèmes des familles, etc. Où dans le fond, le pédagogue était autant le conseiller, souvent, que l'enseignant. Nous avons connu, et il faut bien le dire aussi, pourquoi on a connu l'Église à un moment où, de son côté, quelquefois à côté de ce que je viens de citer, Elle avait aussi un rôle qui n'était pas automatiquement un rôle moralisateur, elle avait aussi un rôle de soutien, d'affection, de présence, d'encouragement, etc. Elle ne l'a plus non plus. Alors finalement, il se trouve que, par une espèce d'ironie du sort, l'élu le plus humble, c'est-à-dire dans l'élu local, se trouvait à la conjoncture de tous ces problèmes qu'autrefois on l'aidait à résoudre, qu'à l'heure actuelle, ils sont pratiquement les seuls à s'occuper. Je m'amusais tout à l'heure à vous dire que je remplissais ma poubelle avec toutes les circulaires, papiers, affiches et choses diverses que je recevais. Mais je pense que je le fais c'est pas une question d'orgueil de ma part de dire que je n'ai besoin de recevoir de leçons de personne, absolument pas. Mais je pense que l'essentiel des choses n'est pas là. N'est-ce pas ? Les gens ont besoin de vivre et les gens ont besoin qu'on les aide à vivre. Sans cultiver le paradoxe, on pourrait presque dire qu'on ferait un meilleur maire avec un homme humainement accessible à tous qu'avec un homme technocratiquement au courant de tous ses droits, de tous ses devoirs. Vous voyez ? Je pense que c'est essentiel.
Il y a certains moments où on se sent un peu comme un filtre et on voudrait bien ne plus être ce filtre. On se demande pourquoi on est habité par ça, enfin ce qui se passe à ce moment-là. Parfois aussi, on croit toujours qu'il y a des moments privilégiés pour écrire. On souhaiterait que tout soit, disons, comme en ordre pour qu'on puisse écrire. Vous savez, comme si c'était une cérémonie secrète. Il va se passer quelque chose, c'est un rite. On va entrer en écriture. Et c'est jamais comme ça. Il n'y a jamais un moment privilégié pour écrire. Et dans le fond, ça devient vraiment... Il faut s'y mettre, quoi, c'est tout. C'est ça. Et c'est là qu'on souffre le plus. C'est que quand on fait un livre, quand on se dit, bon, il faut que j'en écrive 200 pages parce qu'il faut que ça tienne debout, il faut que ça ressemble à quelque chose. À ce moment-là, il y a vraiment une volonté formidable pour s'y mettre. On n'a pas envie, on a envie de fuir de ça. On se dit, j'y arriverai jamais. Et moi, pendant un an, depuis un an, là, je suis sur un ouvrage et tous les jours, je me demande où je vais, où il me mène, j'en sais rien, je le prends par tous les bouts. Je suis étonnée qu'à la fin, ça puisse faire un livre.
Ma femme a la chevelure de feu de bois, aux pensées d'éclairs de chaleur, à la taille de sablier. Ma femme a la taille de loutre entre les dents du tigre. Ma femme a la bouche de cocarde et de bouquet d'étoiles de dernière grandeur, aux dents d'empreintes de souris blanches sur la terre blanche. à la langue d'ambre de verre frotté. Ma femme à la langue d'hostie poignardée, à la langue de poupée qui ouvre et ferme les yeux, à la langue de pierre incroyable, ma femme aux cils de bâton d'écriture d'enfant, aux sourcils de bord de nid d'hirondelle, ma femme aux tempes d'ardoise de toit de serre et de buée aux vitres, ma femme aux épaules de champagne et de fontaine à tête de dauphin sous la glace, ma femme aux poignets d'allumettes, ma femme aux doigts de hasard et d'as de cœur, aux doigts.
C'est même mieux comme cadre familial, parce que souvent on est témoin de disputes, de hurlements qui sont dans les familles, et on les emporte.
De Nid de Saint-Jean, de Troène et de Nid de Scalard, aux bras d'écume de mer et d'écluse, et de mélange du blé et du moulin, ma femme aux jambes de fusée, au mouvement d'horlogerie et de désespoir, ma femme aux mollets de moelle de sureau, ma femme aux pieds d'initiales, aux pieds de trousseaux de clés, aux pieds de calfats qui boivent, ma femme aux coups d'orge imperlés, ma femme à la gorge de Val d'Or, du rendez-vous dans le lit même du torrent, au sein de nuit, ma femme au sein de taupinières marines, ma femme au sein de creusets du rubis, au sein de spectre de la rose, la rosée, ma femme au ventre.
Je pense que seuls les professeurs peuvent faire des romans de professeurs. L'écrivain paysan est un témoin de son temps. Il ne s'agit plus d'écrire comme Eugène Leroy ou comme Guillaumin ou comme Morette, qui sont d'excellents écrivains et qui pour nous sont une certaine noblesse de plume qui nous a précédés. Mais à l'heure actuelle, je dis l'écrivain paysan, c'est un témoin. Il est témoin d'un combat, il est témoin d'un drame, il faut que ça passe dans son livre. It's the way of love, you know, the chance you have to take. Quand on a envie d'éternuer, on ne peut pas s'arrêter, il faut éternuer. Bon ben, écrire c'est pareil, quand ça vous démange, il faut écrire. Alors, je pense que c'est très juste, je vous racontais que je suis parti pendant 10 jours parce que j'avais besoin de m'en aller pendant 10 jours seul parce que il fallait que je gratte, il fallait que j'écrive ce que j'avais à écrire.
De cocarde et de bouquets d'étoiles de dernière grandeur, aux dents d'empreintes de souris blanches sur la terre blanche, à la langue d'ambre et de verre frotté, ma femme à la langue d'hostie poignardée, à la langue de poupée qui ouvre et ferme les yeux, à la langue de pierre incroyable, ma femme aux cils de bâton d'écriture d'enfant, aux sourcils de bord de nid d'hirondelle. Ma femme aux tempes d'ardoise de toit de serre et de buée aux vitres. Ma femme aux épaules de champagne et de fontaine à tête de dauphin sous la glace. Ma femme aux poignets d'allumettes. Ma femme aux doigts de hasard et d'as de cœur, aux doigts de foin coupé. Ma femme aux aisselles de martre et de faîne, de nuit de la Saint-Jean, de troène et de nid de scalard, aux bras d'écume de mer et d'écluse, et de mélange du blé et du moulin. Ma femme aux jambes de fusée, aux mouvements d'horlogerie et de désespoir. Ma femme aux mollets de moelle de sureau, ma femme aux pieds d'initial. Au pied de trousseaux de clés, au pied de calfas qui boivent. Ma femme au cou d'orge imperlé, ma femme à la gorge de Val d'Or, du rendez-vous dans le lit même du torrent, au sein de nuit. Ma femme au sein de taupinière marine, ma femme au sein de creuset du rubis, au sein de spectre de la rose sous la rosée. Ma femme au ventre de dépliement d'éventail des jours, au ventre de griffes géantes. Ma femme au dos d'oiseau qui fuit vertical, au dos de vif argent, au dos de lumière, à la nuque de pierre roulée et de craie mouillée, et de chute d'un verre dans lequel on vient de boire. Ma femme aux hanches de nacelle, aux hanches de lustre et de peine de flèche, et de tiges de plumes de pan blanc, de balance insensible. Ma femme aux fesses de grès et d'amiante, ma femme aux fesses de dos de cygne, ma femme aux fesses de printemps, au sexe de glaïeul, ma femme au sexe de placère et d'ornithorynque, ma femme au sexe d'algues et de bonbons anciens, ma femme au sexe de miroir, ma femme aux yeux pleins de larmes, aux yeux de panoplie violette et d'aiguille aimantée, ma femme aux yeux de savane, ma femme aux yeux d'eau pour boire en prison, ma femme aux yeux de bois toujours sous la hache, aux yeux de niveau d'eau, de niveau d'air, de terre et de feu.
Over the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away ere break of day to find our long forgotten gold.
In days of old, when dragons roared and smaller folk than us were abroad, the mighty wizard Gandalf planned adventures for his friends. There was Thor in Oakenshield, Bale in Dwale, Keely, Feely and Dory too, and bringing
the real... Sur le moment quand je l'ai fait, j'ai pas pensé que c'était un choix. Il y a des gens autour de moi qui m'ont fait comprendre que j'avais fait un choix, que c'est pour ça que finalement j'étais par moments assez ennuyée et que la vie n'était pas facile.
Je suis un passionné, vous êtes rendu compte que je suis un passionné.
Je pense tout le temps, quand on met un enfant au monde, on met aussi un mort au monde. C'est très très présent tout le temps de la grossesse et au moment de l'accouchement. Et après, quand je vois mes enfants, je pense que ce sont des condamnés à mort. Et en même temps, c'est ce qui donne tout le prix de la vie. Et moi, je suis très consciente qu'un enfant, tout de suite, a son destin qui lui est propre. Qu'on peut sûrement l'aider et qu'on peut être là, mais il a son destin propre.
Over the misty
référence. Alain Renaud, Black and In, Clifford T. Ward, Escalator, Joey Walsh, So What. Nella Bielski, Le Tramway d'Osier, Robert Laffont, Françoise Lefebvre, La Première Habitude, Jean-Jacques Pauvert, Jean-Louis Kériac, Rouge et Mater, France Empire. Et André Breton, L'Amour Fou. Bonsoir.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 19 septembre 1975.